Bonne soirée à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD ici sur les ondes de CKRL 89.1. Et on fait officiellement le retour en 2012. L'arrivée en 2012, on l'a amorcé la semaine dernière, mais comme on vous l'avait dit, c'est véritablement cette semaine qu'on va s'intéresser à ce qui s'est passé en 2011, aux sorties BD et surtout aux coups de cœur de tout un chacun. Et je dis tout un chacun parce qu'il y a plusieurs belles personnes autour de la table ici. Il y en a 6, moi inclus. Alors, je fais une petite tournée de salutations puisque donc ce seront eux qui partageront leurs coups de cœur et moi également, donc des coups de cœur BD de 2011. Alors ben tout d'abord, il est journaliste à Vox et également critique BD à l'émission du matin ici à CKRL, Pierre Blais, bonjour.
Monsieur Poirier.
Également Michel Giguère, collaborateur régulier de l'émission, également responsable des rendez-vous de la BD, bonjour.
Monsieur Poirier.
Merci, ce sera un thème. Il est libraire chez Pantoute, Marco Duchesne, bonjour.
Monsieur Poirier.
Et ben enfin, on le connaît comme collaborateur régulier ici, évidemment, et aussi comme directeur général du Festival de la BD de Québec, Thomas-Louis Côté, bonjour.
Monsieur Poirier.
Et enfin, il est collaborateur régulier à l'émission et aussi libraire chez Première Issue, Sam Murdoch, bonjour.
Raymond, bienvenue en 2012.
Et le nom a été répété moult fois, moi je suis Raymond Poirier. On est avec vous jusqu'à 18h30 et je pense qu'il faut se lancer tout de suite parce qu'on a plusieurs titres, plusieurs éléments à discuter et bon, en fait, on mettra la liste, bien entendu, intégrale des titres mentionnés sur le blog de l'émission en fin de parcours. Mais peut-être commençons avec quelques BD québécoises qui ont marqué l'année, selon nous, et notamment une BD qui est sortie en première moitié d'année, Jean-Paul Hyde, Le fond du trou, une BD conceptuelle quand même assez particulière, et Thomas-Louis, notamment, elle était parmi tes sélections, là, tes coups de cœur de l'année.
Oui, ben moi c'est une bande dessinée qui a été lancée durant le festival l'année dernière au mois d'avril et j'avais pas eu le temps de le lire lors de sa sortie, mais quelques semaines après le festival, je veux dire, c'était un de mes plaisirs de lecture c'est un plaisir renouvelé, je l'ai relu durant l'année et c'est plein de belles découvertes, je veux dire, excusez-moi, il y a une recherche à travers le concept de cet album-là. On se rappelle que l'album a un trou qui traverse de bord en bord le livre et toute l'histoire est basée autour de ce trou-là et il y a vraiment des belles découvertes narratives par rapport à ça. Ça se rapproche de Marc-Antoine Mathieu dont on parlera un peu plus tard et vraiment moi c'est un de mes plaisirs que j'ai conseillé à plusieurs personnes durant l'année.
Il y a même un clin d'œil, un hommage à Mathieu dans l'album.
Effectivement.
Mais il faut dire que Hyde renoue aussi avec son personnage de Crow, qui est Jérôme Bigras. Et comme à l'époque de Crow, il y a l'exercice de style, il y a les trouvailles narratives et visuelles qui en BD sont souvent liées. Mais au-delà de ça, c'est drôle. C'est vraiment drôle. Donc c'est un plaisir de voir que ça va au-delà de l'exercice de style. C'est brillant et c'est drôle en même temps.
Et d'ailleurs, en fait, l'album s'est retrouvé dans quelques autres palmarès, outre le nôtre aussi. On dirait qu'il y a quelque chose de stimulant à voir des BDistes travailler, réinventer, jouer avec le médium qui est la bande dessinée également. Et dans ce cas-ci, c'est quand même un pari assez risqué de dire, bon, on met un trou, il faut l'intégrer dans chaque BD et le justifier son apparition à l'intérieur du développement des cases. Et on mentionnait Marc-Antoine Mathieu, peut-être simplement au passage, en fait, 3 secondes, BD conceptuelle qui est fort sympathique aussi, si vous avez envie d'explorer justement cette sphère-là, où ici, en fait, on se retrouve sur une narration de 3 secondes, en fait, une action de 3 secondes qui est étayée, qui est développée là, sur un petit album, ma foi, fort sympathique.
Autour de 48 pages, 3 secondes qui s'étalent. Mais c'est toute la focale, hein, c'est-à-dire qu'on focalise sur l'intérieur d'un bâtiment et dès qu'il y a quelque chose qui peut refléter, qui peut apporter un reflet, un miroir, une coupe de champagne, une autre vitre en quelque part, on se retrouve dans un autre univers, on se déplace comme ça à l'intérieur de l'album de Marc-Antoine Mathieu.
On zoome, on dézoome.
C'est un album qui est difficile à décrire verbalement.
Et c'est un album qu'on relit plusieurs fois, ça c'est indéniable, pour découvrir un peu les façons dont ils ont joué avec ces structures-là. Et parallèlement, si on reste un peu dans la BD québécoise, je lance à la ronde peut-être en fait dans les mentions parce que bon il y a le style expérimental en fait des BD un peu qui jouent avec les conventions. Parallèlement, il y a aussi quelques BD de genre qui méritent peut-être d'être mentionnés au passage. Et pour plusieurs d'entre vous en fait, quand j'ai lancé la question de savoir quel BD on devrait inclure, vous aviez mentionné notamment La Bête du Lac, BD donc de je retrouve les noms, voyons,
François Lapierre.
Oui. François Lapierre. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça mérite une petite salutation là, dans cette émission Coup de cœur?
Ben, François Lapierre, qu'on connaît pour avoir fait la série, le diptyque Sagana, et ensuite, il nous a offert aussi... Tashkan, mais c'était Chronique Sauvage, voilà, qui était un bel album. Et puis, il revient encore avec quelque chose qui se passe il y a des siècles, à l'époque de Nouvelle-France ou après, peu importe, dans la nature sauvage. Et c'est très ancré dans notre histoire, dans notre passé. Et ma foi, ça me fait me souvenir d'un éditorial que j'avais écrit dans le bulletin interne de la SKBD il y a 300 ans. Et où est-ce que je soulignais le fait qu'au Québec, que ce soit à la télé, au cinéma ou ailleurs, on a donc de la misère à croire à nos héros. Nos héros, quand on est petit et qu'on joue, ils s'appellent Jack, ils peuvent pas s'appeler Jacques, ça n'a aucune crédibilité. Et puis, je vois François Lapierre et Jean-Sébastien Bérubé avec son histoire autour de Radisson. Oui, oui, c'est vrai qu'il faudrait souligner que La Bête du Lac n'est pas dessinée par François Lapierre. Il est scénariste dans cet album-là. Il est dessiné Thomas Louis. Rappelle-nous donc le nom.
C'est Patrick Boutin-Gagné.
Ouais. Mais non, je parle de Jean-Sébastien Duberger parce que c'en est un autre qui puise dans notre histoire. Et je me dis, waouh, c'est des tout jeunes hommes. Qu'est-ce que j'ai dit? Duberger? Fuck. Bérubé, je m'excuse. Et puis, donc, c'est super de voir ces jeunes-là puiser et oser, c'est vraiment assez audacieux, je trouve, dans notre culture, oser mettre des héros qui sont tirés de notre histoire, même si ça peut être fictif. Là.
Et en même temps, ne pas tomber dans le piège du tourisme, c'est-à-dire il y a un langage, parfois, avec des mots qu'on connaît, québécois d'ici, mais sans en exagérer la teneur.
Ah, et c'est en pas plus, magasin général, évidemment.
Non, c'est ça.
Sûr,
et en plus, on sombre pas aussi. On y met des sirènes et une espèce de mythologie, une espèce de bestiaire, pécotille. De bestiaire qui est pas d'ici, mais en même temps qui colle avec l'histoire. Je pense que c'est une belle surprise. En tout cas, pour moi, ça a été une belle surprise dans le corpus québécois de cette année.
Puis on a découvert un nouveau dessinateur de talent, Patrick Boutin-Gagné, qui prépare déjà des projets chez le Soleil. Donc, c'est quelqu'un qu'on va revoir assurément.
Et puis, c'est bien dans une émission comme ce soir, parce que évidemment, on va vous proposer un tas d'albums qui sont des BD d'auteur, comme on dit, du cinéma d'auteur, et c'est parfait, c'est une belle tribune pour ça, mais c'est bien aussi qu'on mette de l'avant des albums qui sont plus grand public, comme celui que t'es en train de sortir, Raymond, d'ailleurs.
Oui, ben en fait, l'ouverture grand public permet une petite mention, passage jusqu'à La Bête du Lac, qui est sorti aussi du côté de l'Europe, qui a quand même eu aussi des critiques assez appréciables. Peut-être pour fermer une parenthèse, cela dit, mentionnons que le choix de La Bête du Lac n'avait pas nécessairement l'unanimité parmi les chroniqueurs et collaborateurs.
Il y a c'est vrai.
Pierre Blais qui disait, bof, a fait...
C'est pas la meilleure, à mon sens, de scénaristiquement parlant, de François Lapierre. Mais l'autre dont on allait parler, à mon sens, si on parle de série, dans le cas des Nombris, ils ont sorti 5e tome cette année. C'est une série à grand succès. C'est une série qui est familiale, que tout le monde peut lire avec plaisir. Et à mon sens, c'est une série qui est intelligente et qui m'a séduit dès le premier tome, mais qui me surprend de tome en tome. Et le 5e, ils arrivent encore, dans une histoire qui est toute simple, à trouver... Pardonnez-moi l'anglicisme, une twist scénaristique qui réussit à surprendre, et je me dis, ils ont réussi à aller là, à se rendre là, à réussir à, je dirais, me surprendre. Et ça, dans le sens-là, pour ce genre de BD-là, c'est quand même rare annuellement, en ce qui me concerne.
En fait, t'as tout à fait raison. Au début, les Nombris s'inscrivaient chez Spirou, dans Spirou Magazine, en prépublication, dans un genre qu'on appelle le gag d'une page.
Et dans Safari, d'abord et avant tout.
Ouais, oui. Et c'est le gag d'une page. Ouais. Alors, ces albums-là ont comme une espèce de vie limitée, dans le sens que on se rappelle des gags. Mais déjà, dès le deuxième album, les gens se rappelaient plus de ce qui allait arriver au personnage. Et là, on commençait une espèce de travail sur chaque gag d'une page, tombe avec une chute, mais continue l'histoire. Mmh. Et il se passe de quoi chez Dupuis, parce que maintenant, je suis abonné au magazine, et je m'aperçois que toutes leurs auteurs, on lui demande à certains qui faisaient du gag d'une page, de maintenant de commencer à peut-être insérer des histoires, des continuités. Mmh. Et c'est eux qui ont amené ça, mais et avec beaucoup d'intelligence.
C'est étonnant de lire des entrevues de Delaf et Dubuc, qui reviennent souvent avec le même leitmotiv. Notre priorité, c'est de faire un gag. Et entre autres, ils prétendent ne pas faire de morale. Or, je trouve qu'ils, quand même, ils abordent un tas de questions sur la droiture, sur l'acceptation de soi, mais un tas de choses aussi sur nos rapports aux autres et la méchanceté, pour le dire simplement, mais des choses assez nuancées là. Et puis, je suis tout à fait d'accord avec les autres intervenants, c'est que bien au-delà du gag, ils réussissent à faire des récits continus. Il suffit d'ouvrir le tome 5 au début, ils font un récapitulatif de toute la série, et on se rend compte que c'est une histoire, et tous les tomes constituent une histoire. C'est donc dire que les gags s'articulent très bien, et puis que les personnages gagnent en épaisseur, et moi, ce qui me frappe, c'est qu'ils amènent des rebondissements souvent imprévisible, et ça, c'est drôlement chouette.
Et en fait, j'ai pour mon dire que si on veut faire un gag qui est réussi, faut qu'il y ait de la chair autour des personnages, faut qu'il y ait des enjeux, faut qu'il y ait plus que simplement une situation. Et dans ce cas-ci, avec les nombrés, en fait, j'ai l'impression que Delaf et Dubuc ont réussi à créer un univers qui se tient, à créer des personnages qui sont tridimensionnels, qui sont riches, et ça rend aussi leur gag plus efficace. De ce fait, parce que il y a plus que simplement la situation, il y a des éléments, des développements autour de ces gags-là, mais aussi on se préoccupe des personnages, on a envie de suivre ce qui se passe, et en même temps on réagit peut-être un peu plus favorablement aux situations plus humoristiques qu'on retrouve à l'intérieur de cette série-là. Et j'imagine que c'est pas pour rien que ça connaît un grand succès, certes ici au Québec, mais en France, je pense que avant l'émission on se disait mon Dieu, c'est parmi les 10 meilleurs vendeurs là, du côté de l'Europe.
Et en fait, c'est les 10 bandes dessinées qui ont connu le plus grand tirage en 2011. Les nombris se retrouvaient au 9e rang avec 160 000 exemplaires, ce qui est bien au-delà que plusieurs autres séries, et non par exemple, je voyais peut-être le Spirou, je crois qu'il est en bas même de ça. Donc ça reste un des succès les plus grands de la bande dessinée québécoise.
Il ne faut pas omettre de dire que quelque chose qui n'est pas étranger au succès dont tu parles, Thomas-Louis, c'est le dessin. Oui, le scénario est fort de Maryse Dubuc, mais le dessin de Delaf est efficace, sa mise en scène est efficace, ses couleurs sont belles, c'est du grand public, mais chapeau, c'est bien fait.
Alors bien entendu, vous restez autour de la table, on s'en va en musique tout à l'heure. En fait, peut-être une petite mention, parce qu'il y a Sam qui est resté quoi à côté. Il faut dire que c'est notre spécialiste de bande dessinée anglophone. Alors Sam, peut-être en fait petit clin d'œil qu'on pourrait faire à Batman de Black Mirror, qui est parmi ton top 3 des BD anglophones de l'année.
Premièrement, je veux dire, j'ai jamais passé 10 minutes sans parler de ma vie. Deuxièmement, donc bande dessinée, donc un espèce de coup de cœur dans les dernières années, qu'est-ce que j'ai lu? Batman Detective Comic, donc qui est publié mensuellement depuis 70 ans. Donc là, à partir de septembre, ils ont recommencé de New 52, qu'appelle-t-il? Ils ont renuméroté tout l'univers de DC Comics. Donc toutes les séries ont arrêté au numéro 1. Puis le dernier Detective Comic était le 881, donc qui est paru à la fin du mois d'août. Puis donc, là, qui paraît. Le recueil est paru en 2012, début 2012, mais ça s'appelle le Black Mirror. C'est les 12 derniers numéros de Batman Detective Comic. Super bonne histoire. Il y a Francesco Francavilla, qui est un de mes dessinateurs préférés, qui est italien, mais donc qui est aux États-Unis présentement. Puis, ils sont comme succédés, lui, avec Jock, qui sont deux dessinateurs américains. Puis, Scott Snyder, qui est un excellent scénariste. Super bonne histoire, super beau dessin. Puis c'est Batman, tout a été dit de Batman depuis 75 ans. Là. On a vu Batman, on connaît. Puis une espèce de, un peu comme Star Wars, là. Dès qu'il y a un sabre laser, bon, on connaît l'univers, on connaît la ville, on connaît les enjeux, on sait qu'est-ce qui se passe. Puis ça fascine parce qu'à chaque fois, ils réussissent à trouver une espèce de twist différente. Là, c'est le fils de Gordon qui revient en ville.
Mais en fait, Batman est moins au centre de l'histoire que les personnages secondaires comme James Gordon.
Ouais. Donc, le fils de James Gordon qui revient en ville, qui finalement, on apprend qu'il était un tueur en série.
Donc là, on parle de la série officielle Batman de DC Comics. Oui. On parle pas d'un dérivé, d'un autre spin-off, autre dessinateur. Parce que on a l'impression quelquefois qu'il y a 38 séries Batman, ben, 38 Superman aussi.
Non, mais il y en a 38, ce qui arrive, c'est ce qui est magnifique, c'est un peu comme le 11 septembre. T'as pas besoin de tout lire pour tout comprendre, mais il y a 13 séries mensuelles de Batman avec Batgirl, Batwoman, Red Hood. Detective Comic Batman, donc il y en a beaucoup à suivre, mais tu n'as pas besoin de tous les livres.
Mais celui-là, c'est la trame principale.
Ça, c'est la trame, c'est une des trames principales. Puis ces 12 numéros-là forment cette arche d'histoire qui s'appelle The Black Mirror, qui est une excellente histoire.
Et là-dessus, on s'en va en musique. Urbain des Bois sur les ondes de CKRL.
shop. Des petits bouchons de seringues, des towing partout. Sur le trottoir d'en face, c'est pas toujours le même gars qui dort. Y'a pas beaucoup de lettres dans ma boîte à lettres. Juste des gros qui pensent à moi. Paye ci, paye ça, paye ici, paye là. C'est le décompte des comptes. Toujours un flat, puis ma chaîne débarque tout le temps. Ma vie est en panne de sens. J'ai décidé de me tuer avant de mourir de même, de plus savoir qu'est-ce que m'a bien vouloir faire. Boire d'eau de bière ou bedon, chimer le frigidaire, regarder dehors, manger des toasts, noyer des araignées dans le bain.
Urbain des Bois avec la pièce Le Décompte, ici à la VMBD sur CKRL 89.1. Raymond Poirier, toujours avec vous, toujours en compagnie de Michel Giguère, Pierre Blais, Marco Duchesne, Thomas-Louis Côté et Sam Murdoch pour ce récapitulatif BD 2011. Et on est resté au Québec, mais les nombrés nous ont emmenés vers l'Europe, alors j'ai envie qu'on y reste un peu, qu'on y reste quelques instants. Et notamment, il y a une BD, en fait, quand je faisais le tour des palmarès, il y a une BD qui revenait extrêmement régulièrement et semble-t-il qu'elle figure aussi parmi vos palmarès à vous, ou du moins à certains d'entre vous. On parle ici des Ignorants, récits d'une initiation croisée d'Étienne Davaudeau. Michel Giguère, notamment, figurait parmi tes sélections.
Étienne Davaudeau fait aussi des récits de fiction, mais ce qu'il singularise un peu dans l'univers de la BD, c'est qu'il fait aussi des albums documentaires. Il faut le prendre au sens... dans le même sens qu'on dirait un film documentaire. Il nous entraîne dans un milieu donné qu'il dépeint avec... il nous fait des portraits de gens qui existent vraiment. Il se rend sur place, mais la grosse différence, c'est que là où, avec une caméra, on capterait des images, Davaudeau les dessine. Le lecteur moyen voit pas le travail. Il va trouver que c'est un dessin qui est réduit à l'essentiel, qui est assez simple. Quelqu'un qui s'y connaît un peu plus en dessin est capable de mesurer l'incroyable travail qu'il y a là-dedans, mais ça ne sent pas la sueur et le travail. C'est quand même discret, mais tout est archi-documenté. Il doit faire des tas de croquis, c'est incroyable. Et puis dans cet album-là, il y a un concept de base que Marco trouvait super intéressant. Marco, peut-être nous expliquer le concept de base de l'album, ou tu me laisses encore parler?
Oui, si, continue. Bon, ça va être intéressant, j'ai le goût de le lire.
Le titre est intriguant, c'est Les Ignorants. Et c'est qu'il s'est lié d'amitié avec un vigneron. Et puis, il lui propose ce projet-là. Il lui dit, écoute, ça va être exigeant, mais je veux que tu m'inities au vin que j'apprécie, mais que je ne connais pas. Et je vais faire la même chose avec toi qui ne connais rien à la bande dessinée. Il emmène le vigneron dans des festivals de BD, chez son imprimeur, chez son éditeur. Et il nous entraîne à sa suite. Et de la même manière, pendant une année entière, il va vivre toutes les étapes de travail, parce que c'est un sacré travail, de ce vigneron-là qui suit des méthodes archibiologiques. C'est un pur et dur. Et puis, c'est super intéressant. Et puis, il y a rien de bouleversant là-dedans, il y a rien de spectaculaire, c'est juste qu'on apprend un tas de trucs et que la démarche est super originale et très touchante. Qu'en dis-tu, Pierre?
La démarche est intéressante, à mon avis, il y a des longueurs quand même là-dedans, là. C'est pas, parce que veut pas, c'était risqué. Lorsqu'on fait un documentaire, on tourne beaucoup de pellicules. Lui, je pense que tout mis là-dedans, il y aurait eu peut-être matière à montage, pour utiliser un terme cinématographique. Mais l'idée, elle est bonne. On s'attache aux deux personnages principaux. On apprend effectivement des choses. Mais à mon sens, c'est pas une bande dessinée prenante de bout en bout nécessairement. Même si effectivement, le travail graphique de Davaudeau au chapeau.
Personnellement, c'est pas un de mes albums préférés d'Étienne Davaudeau. Par contre, j'ai été agréablement surpris, dans le sens que depuis le début que je suis Davodo, c'est sa diversité à raconter différentes histoires en documentaire. Au début, je me rappelle, j'avais appris qu'il était travailleur social et ses premiers albums traitaient des jeunes, de la violence, un paquet de trucs. Et je trouvais ça super intéressant et tout. Après ça, est venu des trucs comme sur un des derniers albums, un des avant-derniers, sur les mines. Il y a une mine en France. Il y avait eu une espèce de une mine.
Un homme est mort.
Et là, c'était un document. Et là, complètement un autre univers dans un autre registre. Et là, j'avais appris un paquet de choses. Et c'est ça que j'aime de lui. Et quand j'ai vu la pile, et là, je me suis mis, effectivement, ce que Pierre dit, c'est long. C'est très long. Et moi, à un moment donné, j'ai pas eu la patience de certaines pages, surtout au niveau de la BD. À un moment donné, bon, évidemment, en travaillant là-dedans, en voyant. À un moment donné, évidemment, les trucs du vigneron étaient plus intéressants parce que j'apprenais des choses. Mais c'est pas son travail le plus intéressant. Mais moi, ce que j'apprécie, c'est sa diversité dans les sujets.
Et d'ailleurs, en fait, si on reste un peu dans la question de la BD documentaire, je trouve intéressant que ce médium-là soit de plus en plus exploité, justement dans un contexte un peu pseudo-journalistique, pourrait-on dire, ou documentaire, et des exercices comme Les Ignorants méritent d'être lus, d'être explorés. On peut penser aussi à l'autre incontournable, peut-être pour beaucoup, et là, je pense que cela fera peut-être un peu plus l'unanimité à certains égards, mais Chronique de Jérusalem de Guy Delisle, qui lui aussi fait partie de moult palmarès, avec raison d'ailleurs à mon sens, là, personnellement c'est un de mes coups de cœur de 2011, Guy Delisle qui a toujours cette capacité à allier le quotidien et l'événementiel, à raconter sa vie et à travers cette vie nous faire découvrir le monde qu'il appréhende un peu comme un spectateur intéressé, comme un observateur, réussit à condenser certains événements, à expliciter les autres, à allier humour, sérieux, bref, en fait c'est un auteur pour qui j'ai un coup de cœur d'album en album, et il me semble que Chronique de Jérusalem, c'est un de ses bons récits de voyage, peut-être avec aux côtés de Pyongyang notamment, parmi ses bonnes présentations et ses bonnes mises en image, dans le fond, d'un récit qui aurait pu être extrêmement complexe, mais qui finalement réussit quand même à simplifier, à rendre palpable aussi, pour lui autant que pour nous. Et je sais pas si c'est... Je pense qu'il y en avait quelques-uns parmi vous qui avaient aussi jugé que cet album-là méritait de se retrouver là, dans une émission de coup de cœur, justement. Et oui.
Alors, on me tend le micro, et moi qui travaille en bibliothèque, qui ai les albums moins rapidement que les journalistes et les libraires, j'ai pas encore pu mettre la main dessus, mais je suis un vendu à Guy Delisle, en tout cas pour ce qui est de ses récits de voyage en général.
Moi, pour l'avoir lu, c'est effectivement un des albums qui vaut la peine d'être conseillé à tous, parce que c'est un album où, un peu comme dans les autres albums de Guy Delisle, nous apporte une nouvelle vision d'un sujet. Jérusalem, on en entend parler, la Palestine, Israël, tout ça, dans les médias, toujours pour des mêmes raisons.
Mais on l'a jamais vécu comme on le vit avec Guy Delisle.
Exactement. C'est
de le vivre au quotidien. Il est passé un an là, il faut le préciser, donc il raconte son année.
De vivre au quotidien, de voir, un peu comme Joe Sacco pouvait le faire, nous montrer différentes façons des relations entre les Palestiniens et les Israéliens, voir comment ces gens-là vivent dans une ville où tout est mélangé.
Moi, ce qui fait le charme de Delisle, au contraire, peut-être de Sacco, puis ça c'est très personnel, là, j'enlève rien à l'un ou à l'autre, c'est que moi, je m'identifie peut-être plus à Delisle. Bon, premièrement, il est né à Charlebourg, ce qui est pas mon cas, mais c'est sûrement plus proche que ce que Joe Sacco, d'où Sacco est originaire, mais c'est sa façon d'aborder la bande dessinée, c'est que Delisle, on a l'impression de vivre au jour le jour avec lui, oui. De pas être dans un métier, d'apprendre des choses, comme exemple dans Davodo, qui c'est l'autre qualité d'être dessinateur ou de rencontrer un vignoble. Delisle, on est avec lui sur le terrain, on vit au quotidien, il est avec ses enfants, il est avec sa femme, et ce qu'il apprend de la vie au quotidien des Palestiniens, des Israéliens, des Arméniens, des Juifs orthodoxes, de tous ceux qui cohabitent à Jérusalem et qui cohabitent pas très bien, on l'apprend en même temps que lui, de la même façon. dans le fond. On se doute de certaines choses, mais on l'apprend avec Delisle.
Et on se rend compte, j'ai l'impression, assez rapidement dans le récit, que même si on en entend presque quotidiennement parler de cette réalité israélo-palestinienne, de ce pays, de cette région, on se rend compte rapidement qu'on en connaît qu'une bribe, qu'à la pointe de l'iceberg, et on réussit peut-être à descendre un peu plus bas, justement, dans cet iceberg-là, à en saisir d'autres réalités, d'autres perspectives, à enrichir aussi la vision puis la compréhension qu'on a de ce conflit-là. Et je trouve que c'est un peu le coup de génie de cet album-là, dans un sens aussi, de réussir à nous faire comprendre, à nous faire explorer un conflit et une réalité qui est extrêmement complexe, mais sans avoir l'impression, comme tu disais, d'être en train d'apprendre, d'être en train de faire un exercice didactique. On fait juste passer un moment avec quelqu'un qui est extrêmement sympathique, avec qui on aimerait aller prendre un café pour qu'il nous raconte exactement ce qu'il nous raconte, et on reproduit donc cette relation-là à travers le livre, à travers la page.
Il faut dire que sa femme travaille pour Médecins sans frontières, donc ça rajoute une autre dimension de la vision de l'aide internationale là-dedans, de quelqu'un qui est de externe à ça, qui va vivre au quotidien avec des gens qui travaillent dans l'aide internationale, et c'est ce qui amène souvent le côté le conflit dans ça apparaît par les expériences de sa femme et des collègues de sa femme. C'est bien intéressant.
Je voudrais simplement peut-être conclure en disant que les bandes dessinées de reportages et de témoignages ont l'air de rallier des lecteurs qui sont pas nécessairement des lecteurs de bandes dessinées traditionnelles, et que ça constitue une excellente introduction. Je les conseillerais à n'importe qui est peu familier avec la bande dessinée puis qui pense qu'il y a pas vraiment de sujet adulte. Là, détrompez-vous et commencez donc par ça. Ça va vous donner la piqûre.
Et peut-être avant d'aller en pause, petite mention au passage, et tiens, en fait, je regarde Sam, on conclut avec des BD anglophones, et notamment, peut-être, parlons de Chester Brown.
Chester Brown, qui a sorti un super bon livre tantôt cette année, qui s'appelle Paying for It. Donc, Chester Brown qui raconte toujours sa vie, puis c'est toujours des espèces d'histoires un peu tordues, un peu louches et sexuelles. Il a pris une espèce de lettre de noblesse quand il a sorti un truc sur Louis Riel. Donc, il y a quelques années, les gens ont commencé à s'intéresser à lui parce qu'il faisait des choses d'autres que des histoires personnelles. Puis, il est revenu sur une histoire où est-ce qu'il quitte sa copine, qui était Sue Kinley, qui était animatrice à Much Music. Donc, moi, j'ai grandi avec elle toute mon adolescence. Puis, il sort avec. Le gars, il est jeune, il est maigre, puis qu'est-ce qu'il veut faire? Il se rend compte que il veut pas... Il super beau parallèle sur l'amour romantique. Il dit, moi, je veux faire l'amour, mais je veux pas de blonde. Donc, paying for it. Puis, il est calculé, il se rend compte que ça coûte moins cher d'aller voir une fille par semaine que de sortir avec une fille. Puis, il essaie de démystifier un peu la prostitution là-dessus. Puis, tout le monde trouve le sujet un peu étrange. Puis, à la fin, il y a 50 pages, donc, où est-ce qu'il démystifie vraiment tout ce qui est prostitution, tout ce qui est rencontre sexuelle.
50 pages en bande dessinée?
Non, 50 pages en texte.
D'accord.
Donc, puis qui est fait avec, j'oublie le nom de la femme, mais qui revendique les droits des prostituées. Donc, c'est pas juste le point de vue d'un homme qui essaie de dire que la prostitution, c'est cool. Puis, ce qui est drôle, c'est que là-dedans, sa blonde trouve ça bizarre. Ses amis trouvent ça bizarre. Sa famille veut pas le savoir. Puis, c'est tout son histoire qu'il raconte. Puis, quand tu le rencontres, Chester Brown, tu sais, il est tout petit, il est tout maigre, il est chétif. T'sais, quand tu vois sa photo, puis il se dessine exactement comme ça, il est gêné. Puis, donc, il est allé voir des prostituées pendant 6 ans. Puis, il fait une bande dessinée sur chacune des filles qu'il a rencontrées à chacune des fois.
Mon Dieu.
Puis là, il a changé les noms, il a changé tous les détails physiques pour pas qu'on reconnaisse personne et tout, là. Mais c'est des histoires, tu sais, au début, c'est super drôle, puis ça devient super touchant, puis il y a comme, j'ai son truc sur l'amour romantique.
Ça pose des questions. C'est le livre, pour l'avoir lu, j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire, mais tu finis le 50 pages à la fin instructif. Tu le lis parce que ça essaie de répondre à des questions que tu peux avoir.
Hein. C'est ce qui est le plus proche d'un Woody Allen en bande dessinée, hein. Je veux dire, c'est super drôle, mais c'est super touchant. Puis moi, c'est ma lecture du dimanche, là, d'un bout à l'autre. Très, très bon livre anglophone. Ça s'appelle Paying for It. Donc, même l'éditeur, même Drawn and Quarterly, avait de la difficulté avec le titre. Ils ont choisi plein d'autres titres. Ils voulaient pas. Ils trouvaient que ça faisait trop louche.
Alors ben voilà, Paying for It, et comme quoi en fait, on vous a lancé quelques suggestions si vous avez envie d'une BD adulte à saveur documentaire, et ben quelques belles proposition de lecture. Vous restez bien entendu tous avec nous, Michel Giguère, Pierre Blais, Marco Duchesne, Thomas-Louis Côté, Sam Murdoch. On s'en va en pause. On revient tout de suite après, toujours dans le cadre de La Vie en BD.
Vous avez l'oreille curieuse. Vous recherchez des sons différents. Vous avez le goût de musique déroutante, inhabituelle, mais pleine de sens. Écoutez La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL, une émission en art audio et électronique animée par Myriam Lambert et Jean-Pierre Gay. Présenté par le Centre d'artistes Avatar de Méduse. Tous les dimanches à 23h, La Croche-Oreille, ce sont les sonorités du futur par des gens d'ici, aujourd'hui.
Les week-ends à Télé-Québec, l'écran s'anime dès 6h.
Non, dans Klaxon, c'est vrai?
Des séries de qualité toute la matinée. Du grand plaisir pour les tout-petits.
Ça, c'est super!
Parce que les enfants méritent ce qu'il y a de mieux. Télé-Québec, l'autre télé.
Remember how I'm going to live forever.
Lundi, 17h30, le théâtre et la danse sont à l'honneur au 89.1 avec les Enfants du Paradis, en compagnie de Robert Boisclair. Seulement au 89.1.
Québec
est une présentation du Bal du Lézard qui, à l'image de CKRL, vous offre une diversité colorée. 1049 3e Avenue, 418-529-3829.
Raymond Poirier toujours avec vous dans le cadre de La Vie en BD, exceptionnellement cette semaine à la mise en onde Julie Gagné, qu'on remercie bien et bassement d'ailleurs. Et j'en profite pour mentionner que son émission ici à CKRL Aérospatiale, émission spécialisée en arts visuels, commencera la semaine prochaine, donc mardi prochain. Et on va rester en Europe, avec un petit doublé, deux suggestions qui venaient principalement du palmarès personnel de Monsieur Marco Duchesne. Alors, spécial Manu Larsonnet, oui. Blast tome 2 et aussi Valérian vu par...
Blast est bien sorti début de l'année, hein, c'est ça, l'année passée. OK, j'étais plus sûr s'il rentrait dans le... Il va nous en faire un tout... fois par année, probablement. Ben oui, dans mon... en fait, à l'année, je pense que je suis tombé sous le charme de Manu Larsonnet. Déjà, avec son combat ordinaire, le fait d'avoir appelé son personnage principal Marco.
Oui, t'es habillé en Manu Larsonnet, t'as la casquette.
J'ai la casquette. Et en plus, il traite de sujets qui me touchent beaucoup dans le combat ordinaire, la relation au père, dans Blast, l'alcoolisme. Étant un alcoolique repenti, Blast me touche beaucoup dans le sens que sous des allures de faux polar, on y voit un espèce de personnage qui raconte son alcoolisme puis il va jusqu'au bout, là, le fameux Blast. Mais tout ça avec des différents traitements au niveau graphique. Si dans Combat ordinaire, il était un peu plus conventionnel, dans Blast... Alors là, graphiquement, les états de
psychotiques
et d'alcool
du personnage principal
sont traités graphiquement et assez magnifiquement. Et l'histoire avance tranquillement.
Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, c'est une garde à vue. Hein. C'est exactement comme avec Michel Serrault, Lino Ventura. C'est-à-dire que c'est un homme qui est en garde à vue avec des policiers, qui tente de savoir ce qui s'est passé dans son passé. Et à partir de ce moment-là, on va revenir en flashback sur ce qui est arrivé dans l'histoire du personnage principal.
Voilà. Qui peut sembler un peu, mais graphiquement, en fait. Et le deuxième tome est arrivé... en fait, cette garde à vue-là, il y a eu un meurtre. Une femme est morte, ou on pense qu'elle est morte. Et ça arrive au compte-gouttes dans chaque album. En tout cas, dans les deux premiers, c'est pas tellement important comme le voyage que fait le personnage principal dans les états éthériques et alcooliques de... éthyliques, c'est-à-dire... Et... Voilà, est paru récemment un autre album de Manu Larsonnet, qui est une aventure de Valérian vue par. Alors le concept né de il y a quelques années chez Dupuis.
Ça va pas de soi, hein?
Non, c'est ça, mais le truc qu'il faut bien comprendre, c'est que à un moment donné, je crois que la BD européenne, les Français, les Belges, les éditeurs européens ont commencé à voir stagner certaines séries. Et pour raviver un peu l'intérêt du public, ils ont joué un peu à l'américaine, c'est-à-dire, comme j'expliquais, les séries comme Batman, Superman et tout sont tough depuis très 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 longtemps, mais c'est parce qu'on leur donne des équipes de scénaristes et dessinateurs qui racontent une histoire en particulier au sein de la série. Mm-hmm. Ce qui fait que, oui, la série dure depuis longtemps, mais on a le droit à un rafraîchissement de temps en temps, des fois des déceptions, des fois à de grandes surprises.
Et là, c'est une déception ou une belle surprise?
Et les Européens... Ici, l'idée était un peu saugrenue parce que du côté de Spirou, on avait préparé le concept, une aventure de Spirou et Fantasio vue par, et on avait quelques auteurs qui s'étaient prêtés au truc, et qui avaient eu so-so du succès,
inégal,
mais
ouais.
C'était inégal. Sur les 6 albums, le seul de Bravo était intéressant, celui de Bravo, en tout cas, bref... C'était un concept intéressant. Et là arrive Valérian vu par Manu Larsonnet. Moi, j'ai été un fan de... Et je suis encore Valérian, mais ça fait longtemps que j'en avais pas lu. J'aime beaucoup cette série de science-fiction un peu spatiale et temporelle, parce que Valérian voyage à travers le temps et tout, avec... de la science-fiction pure dure, du space opéra pure dure, avec
une rédaction assez humoristique, assez joue beaucoup avec différents univers qu'on place ensemble, ouais. Mais
alors là l'armure de Jack Holas pour ce qui est de Manu Larsonnet décide de raconter une vraie aventure de Valérian. Parce que c'est une histoire avec tout ce qui importe de suspense et de thriller et de science-fiction. Et on installe un habitué d'un bistrot et qui découvre qu'il est Valérian. Et là, il part à l'aventure aidé par un des personnages principaux des aventures de Valérian. Je me rappelle plus de son nom, mais l'espèce de bonhomme qui l'amène sur à essayer de retrouver son corps. Alors... le personnage décolle. Et là, tous les éléments de ce qui faisait de Valérian une série de science-fiction y sont, et créatures extraordinaires et tout. Mais en même temps, on a tout l'univers débridé un peu de Manu Larsonnet, l'univers de bar, parce que là, le personnage est un pilier de bistrot, ce qui fait que il va se retrouver sur les autres planètes à courir et à vouloir... Mais bon, tout ça pour dire, on s'amuse, même si on ne connaît pas l'univers de Valérian, on s'amuse beaucoup.
Alors ça, c'est l'armure du Jack Holas ou du Jack Holas de Valérian, puisqu'on est dans les aventures débridées, dans les aventures à saveur spatiale. On revient peut-être au Québec, une mention qui était faite dans les coups de cœur de certains d'entre vous, c'est Motel Galactique de Francis Desharnais et Pierre Bouchard chez Pawpaw, mais notamment Thomas Louis, t'avais bien apprécié cette BD-là.
Oui, mais c'est une bande dessinée qui m'a absolument surpris. Dans le fond, Pawpaw est un jeune éditeur, c'était le deuxième album, je crois, qu'ils ont publié, ou troisième, et c'était une belle aventure entre deux amis dans la vie, Francis Desharnais et Pierre Bouchard, qui sont lancés à créer l'histoire de Pierre Bouchard dans un monde 2.0. Donc c'est dans un monde où tout le monde est cloné, il y a Pierre Bouchard qui, lui, est le Pierre Bouchard, ouais. 2.0, le premier clone.
Ce que j'aime, c'est une espèce de bande dessinée, c'est comme une espèce de bande dessinée science-fiction du terroir. Parce que Pierre Bouchard qui a fait une bande dessinée qui s'appelait L'île aux ours. Donc il parle de sa vie. Le gars, il vient de Saguenay, il tripe sur le skidoo.
Les quatre roues.
Skidoo, il est habillé en carotté, mais ça se passe dans le futur, donc il voyage à travers les planètes.
En quatre roues
qui volent.
Il y a beaucoup de désinvolture dans cette bande dessinée-là. Et l'espèce de liberté graphique qu'on voit dans le dessin de Bouchard est vraiment rendue à travers le texte de Francis Desharnais. Donc, il y a une belle osmose entre les deux. Ça fonctionne très bien.
C'est comme improbable un peu que ces deux se retrouvent ensemble à faire une bande dessinée de science-fiction. Tu regardes tout ce que les deux ont fait depuis leur jeunesse. Il n'y a rien qui laissait entrevoir que le truc qu'ils allaient faire ensemble. Moi, je pensais que ça allait quelque chose de plus personnel, puis encore, mais non, science-fiction très drôle.
Et il y a quelque chose de décalé dans cet univers-là qui est extrêmement plaisant et qui est appuyé par, en fait, pour ceux qui connaissent Pierre Bouchard, l'artiste aussi, en fait, il y a un dessin qui est un peu, à défaut d'un meilleur thème, j'ai envie de dire, qui est un peu garroché, esquissé. On voit le trait, on voit le coup de l'efface, on voit le passage du doigt. Soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, je trouve que ça vient enrichir peut-être un peu le côté, justement, décalé, humoristique. Cocasse de cette bande dessinée-là. Puis dès le départ, en fait, on a un univers dessiné qui est très clair, qui est très précis, qui reste cohérent du début à la fin, avec un texte qui est griffonné par moments. Donc j'ai trouvé que c'est une esthétique intéressante, bien exploitée dans ce contexte-là, qui fonctionnerait pas nécessairement ailleurs, mais qui, dans Motel Galactique, fonctionne bien.
Il faut faire attention, justement, de par le coup de crayon de Pierre Bouchard, ça pourrait... Des gens qui lisent moins de bandes dessinées de ce genre-là pourraient être un peu hésitants par rapport à ça. Mais laissez-vous porter par l'histoire, puis vous allez embarquer. C'est hyper efficace comme, comme
album. Mon coeur par rapport au 2011, en plus, c'est le lancement de la bande dessinée qui a été faite au Snack Bar Saint-Jean.
Oui.
Parce qu'il parle beaucoup de burgers, puis il parle beaucoup de fast-food dans la bande dessinée. Puis c'était comme, tu sais, c'était pas un lancement en librairie, c'était pas un lancement en bibliothèque, c'était pas un lancement, c'était au Snack Bar. Donc tout le monde mangeait de la poutine.
Et c'était plein de monde.
Et c'était plein de monde. À la fois pour le Snack Bar Saint-Jean et pour la bande dessinée, c'était très cool.
Et parallèlement, en fait, donc ça c'est Motel Galactique de Francis Dernais, Pierre Bouchard. Et si on reste au Québec, et côté dessin, peut-être un peu initialement, bon, je dirais pas garoché, mais esquissé, une BD qui s'est beaucoup développée, qui est un feuilleton web, en fait, qui est passé vers le livre, Pierre Blais notamment. Toi, t'avais bien aimé Le Stitcha, le premier tome là, qui est sorti cet automne de Zivian Yeris.
Oui, très rapidement, Zivian Yeris. Le deuxième arrive en février ou mars, d'ailleurs. On me confirmait récemment que le troisième sortira au printemps parce que c'est une trilogie. C'est quand même un gros tome, là. Je me souviens pas exactement combien de pages. 150 pages, sûrement. Belle façon de raconter la vie de deux colocataires. C'est une amitié de gars racontée par des filles. C'est amusant. C'est presque touchant aussi, je dirais. C'est extrêmement efficace. Puis moi, et je pense qu'il faut le souligner, qu'on publie en France depuis quoi? Un an d'ailleurs, parce que il y a eu Conventum de Pascal Gérard, cette fois-ci le Stitcha, des bandes dessinées à saveur québécoise, et je parle pas de terroir ici, de façon contemporaine, de gens qui pourraient vivre dans un appartement à Limoilou ou dans Hochelaga Maisonneuve, et qu'on publie ça de façon entre guillemets intégrale du côté de la France, ben tant mieux.
Oui, en fait, les critiques françaises reviennent beaucoup sur l'accent, mais l'accent qui est pas perçu comme au déprimant de la BD, mais qui est vraiment, qui vient bonifier, qui vient faire sentir justement une saveur qui est complètement autre que les univers européens et les BDistes Iris Sisiane qui ont décidé de pas justement adapter du tout leur texte au public français, mais que ce soit plutôt le public français qui s'adapte à leur texte et ça
au
fonctionne
départ,
effectivement très bien.
Il y a quand même très peu, moi je lis beaucoup de webcomics, mais surtout qui se retrouvent en recueil, mais surtout des trucs anglophones, mais au Québec, qu'un webcomic se retrouve au complet, avec une histoire consistante, qui se retrouve bien en France, c'est quand même, c'est très rare. Je sais pas si y a d'autres webcomics québécois. Ouais,
je sais pas, mais celle-là, elle était de qualité. On sent pas que c'est un feuilleton qui est comme un peu tout croche.
Toutes les semaines.
Quand on le lit de bout en bout, ben, on a l'impression que ça se tient, là, vraiment.
Moi, c'est la raison numéro 5 pourquoi je suis sur Facebook. C'est pour suivre le Stitcha. Tu recevais les nouvelles. Puis, tout au long de l'année, ils faisaient des concours autour de ça. Puis, on a quand même beaucoup de fans qui sont fait faire des marionnettes de chats.
Oui, il y a Iris qui vient de lancer aussi son nouveau blog, Feuilleton Folk. Alors, on verra si elle réussira de son côté à réitérer le succès de le Stitcha. Et toi, tu te mentionnes avant de passer en musique. C'est personnel, en fait. C'est pas nécessairement le meilleur Michel Rabagliati, mais je voulais simplement mentionner Paul Auparc. J'ai bien apprécié cette BD, un retour dans l'univers de Paul, la genèse un peu de ce personnage-là. Donc c'est pas Paul à Québec, c'est pas Paul en appartement, mais ça reste un bon Paul. Et un bon Paul, ça veut dire aussi une bonne BD, même si c'est pas nécessairement un incontournable. Les amateurs ont, je crois, été satisfaits de ce nouvel opus dans la série de ce personnage-là, des anecdotes finalement de la vie de Michel Rabagliati qui montre à nouveau, en fait, je pense, sa capacité de scénarisation, de créer du rythme avec une histoire qui est extrêmement épisodique, qui réinvente pas nécessairement la roue, mais qui réussit quand même à placer la réflexion, l'histoire et l'émotion un peu autour de ce récit initiatique, pourrait-on dire, en fait, ce récit d'enfance où on découvre le médium de la BD, où on se découvre soi-même et où, dans le fond, on construit en enfant l'adolescent et l'adulte qu'on va devenir.
Est-ce que tout le monde l'a lu ici autour de la table, le dernier Michel Rabagliati?
Moi, j'ai passé une heure au Archambault.
Parce que moi, j'ai eu un problème avec le dernier. Et si on considère la production de bande dessinée annuelle, Rabagliati, peu importe ce qu'il fait, c'est au-delà de la moyenne, c'est de la qualité, c'est indéniable. Mais là où sa dernière bande dessinée, moi, je vais y mettre un bémol face à des Paul à Québec, Paul en appartement ou Paul à la pêche, c'est... Puis là, si vous ne l'avez pas lu, changez de poste quelques secondes, là. C'est là qu'il y a un accident routier qui arrive dans cette bande dessinée-là. Et à mon sens, scénaristiquement, dans cette BD-là, particulièrement de Michel Rabagliati, c'est plaqué pour créer un effet. Et à mon sens, ça, c'était très, très maladroit de sa part. On sentait qu'il n'y avait pas de... Il manquait de chair et il y a essayer d'insérer ça pour donner vie à sa dernière histoire qui en manquait, à mon sens.
Moi, je ferai une parenthèse là-dessus. Je dirais un accident d'auto ou ce type de mort complètement subi, la vie peut très bien aller et le lendemain, tu te réveilles, il y a quelqu'un de décédé. Donc, ça peut sembler peut-être plaqué à certains égards, mais dans la vie, des histoires comme ça, c'est plaqué aussi. En fait, ça peut arriver de nulle part, là, je veux dire.
J'ai souvent des commentaires généraux, mais on a dit tout à l'heure des nombris qui maintenaient le cap avec une série. Et moi, je lève mon chapeau. Voilà deux séries faites au Québec. On a déploré pendant tellement d'années qu'on n'arrivait pas à maintenir dans la durée des séries comme ça. L'effet de surprise est passé, mais chapeau, c'est intéressant à lire. Et puis, bonne continuité.
Alors, vous restez avec nous ici, toujours dans le cadre de La Vie en BD. Je vous incite, bien entendu, à suivre l'émission via Facebook, à visiter le blog également, lavieenbd.wordpress.com. En musique, Geneviève et Mathieu. Écoutez toujours La Vie en BD et enfin on se dirige, il nous reste une dizaine de minutes ou un peu moins, encore beaucoup de titres qu'on aimerait vous proposer, bien entendu je vous rappelle la liste, on va la mettre sur le blog également un peu plus tard cette fin de semaine pour que vous y retrouviez facilement là, les BD qui ont été mentionnés. Et justement, mentionnons-en plusieurs au passage. On va se faire une petite ronde peut-être de sprint, pourrait-on dire, avec quelques titres. Allons-y, tiens, L'île aux 100 000 morts de Jason et Fabien Vellman. Pierre Blais.
Oui, Jason, c'est un dessinateur que j'ai connu voilà quelques années, qui est scandinave, suédois, vous me corrigerez, et qui fait dans un peu la BD animalière, on le dira, un peu comme fait d'ailleurs Lewis Trondheim avec...
C'est même dépouillement dans le dessin. Hein.
Effectivement. Donc, c'est la BD humoristique, mais un humour très particulier. C'est associé à Vellman comme scénariste ici pour nous présenter L'île aux 100 000 morts. Le thème, c'est une jeune fille qui fait des recherches pour retrouver son père. Elle se retrouve sur une île où il y a une école de bourreaux. On enseigne à des jeunes comment devenir des bourreaux. Et là, on est à l'époque des pirates, des corsaires et tout ça. C'est de l'humour noir, c'est de l'humour par moments que... C'est l'humour bon enfant, mais qui est tellement noir que c'est un humour qui, à mon sens, graphigne. Puis moi, c'est ce que j'aime beaucoup.
Et sinon, on saute à Summer Duck, Book of Human Insect d'Osamu Tezuka.
Débile mental. Moi, j'en ai parlé ici déjà cette année à l'émission. Donc, magnifique livre. Tezuka, donc japonais, qui est l'espèce de dieu du manga. Tout le monde en parle souvent parce que c'est un peu le Walt Disney japonais parce qu'il a inventé Astro Boy, mais c'est aussi le David Lynch. Il a toujours voulu faire des trucs pour enfants, mais il s'est revendiqué de faire des trucs pour adultes. Ça, c'est écrit en 1971. Ça a pris 40 ans avant d'être traduit en anglais chez Vertical, donc aux États-Unis, qui ont les droits. Eux autres publient quelques titres de bande de manga, dont ça, l'espèce de femme fatale qui obtient tout ce qu'elle veut. L'histoire, en feuilletant, ça a l'air d'un manga. Quelqu'un, ça, c'est le livre pour les gens qui aiment pas le manga. Donc, il y a toujours les Beastie Boys, c'est pour les gens qui aiment pas le rap. Ça, c'est pour les gens qui aiment pas le manga.
Et mais on situe en forme de vraiment une montagne de BD devant nous, là.
C'est magnifique, magnifique. Tezuka, ce qu'il a fait cette année, ça, MW, que j'ai lu, mais ça, c'est paru cette année. C'est incroyable comme histoire. Ça, je le conseille.
Ça a l'air très bon. Il y a pas d'accident d'autobus.
Je pense qu'il y en a à la fin.
Chou.
C'est mon magnifique coup de cœur pour vrai. Je vais en acheter une copie à tout le monde ici parce que c'est très bon.
Et on restait dans l'anglophone, mais traduit aussi Thomas Louis Côté de Walking Dead de Robert Kirkman et Charlie Hadlard.
Oui, ben c'est une série que j'ai découvert cette année, donc c'est une série qui date pas de cette année, mais qui se poursuit encore. Ça fait 7 ans. Le 15e tome est paru en français récemment. C'est une série que Marco ici m'a fait connaître et je dois dire que franchement c'est excellent.
Téléspectateurs, sachez que d'abord, c'était une bande dessinée.
Exactement, parce qu'il y a une série télé qui a débuté l'an dernier.
Le tome 15 sort en février au Québec.
Donc, c'est le 14 qui est ici.
Oui, mais en fait, je sais pas, moi, j'ai le 7 anglophone.
C'est le 14,
en fait.
C'est celui-là. Okay.
Mais toujours est-il que c'est une excellente série de zombies, mais
tout
où
à fait.
On ne suit pas nécessairement les zombies, mais plutôt les gens qui sont peut-être eux-mêmes les Walking Dead.
Ouais, c'est la nature de la bête. En fait, l'intérêt dans les histoires de zombies, c'est les gens qui survivent, c'est pas les zombies eux-mêmes.
L'horreur n'est pas les zombies, c'est ce que les humains sont prêts à faire
pour sauver leur peau.
Pour sauver leur peau aux autres humains. Alors, tout est là.
Et d'ailleurs, dans ce registre-là, côté humain, horreur humaine, il reste l'étrange cas du Dr. Jekyll et Mr. Hyde, Michel Giguère.
Album qui paraît dans une collection souvent décevante, ex libris. C'est une tendance chez les éditeurs de reprendre des œuvres de la littérature et d'en faire des adaptations en BD. C'est rarement convaincant. Ça, c'est un tour de force. Je le conseille à tout le monde.
Dans cette collection-là, qui s'appelle Ex libris chez Delcourt, ça en fait, comme Michel mentionne, c'est des classiques mis en BD et on sent la volonté de vouloir s'implanter dans les bibliothèques, les écoles et tout ça, de rendre accessibles ces classiques-là et la BD pour tout le monde. Mais il y a effectivement le dernier, le Dr. Jekyll, Mr. Hyde, a mentionné aussi le portrait de Dorian Gray,
oui,
et le condamné à mort de Victor Hugo.
Juste
qui avait
pour
été
vous dire, j'ai projeté des planches au rendez-vous de la BD cet automne et deux des BDistes qui étaient dans la salle, ça les a jetés à terre.
Donc c'est vraiment c'est beau à voir et c'est bien condensé en forme de bien réussi à adapter ce
travail
récit-là.
De mise en page, adaptation, la transposition totale complètement maîtrisée.
Et on saute parallèlement un autre type de BD, une année en quarantaine, auteur québécois de Claude Hochu. Et Pierre Blais, c'est je crois ta meilleure BD québécoise de l'année.
Oui, puis c'est publié aux Intouchables. Donc ce qu'on fait les Intouchables en bande dessinée, c'est plus ou moins mémorable jusqu'ici. Dans le cas de Claude Hochu, moi je suis tombé en bas de ma chaise. Je pense qu'il y a Michel qui l'a lu, Marco non.
Oui, je l'ai lu. Mais
tu l'as lu?
Ça m'a pas touché.
Non, c'est les dessins sont très particuliers. On aime ou on n'aime pas parce que ce sont des dessins un peu minimaliste par moment. C'est quelqu'un qui raconte son 40e anniversaire, son année de 40e anniversaire, à travers sa vie au quotidien, son travail, sa vie amoureuse. Je dirais que, dans l'esprit, on n'est peut-être pas très loin, ultimement, de Michel Rabagliati dans ce que ça rencontre, c'est-à-dire de la BD adulte au quotidien. Mais moi, j'ai été très touché, j'ai rigolé, j'ai trouvé aussi que le concept est plus audacieux que Rabagliati, on aime ou on n'aime pas, mais c'est-à-dire qu'on se permet dans le dessin, dans la mise en page, une audace qui ne plaira peut-être pas à tous, mais qui, à mon sens, est de grande qualité. Et c'était pour Claude Hochu, autant en scénarisation qu'en dessin. Sa toute première expérience en bande dessinée, pour moi, c'est vraiment réussi. Une année en quarantaine aux Intouchables.
Et on passe le flambeau à Marco Duchesne, Habibi de Craig Thompson.
Ouais, une minute, c'est pas assez. Écoute,
combien de pages?
700 quelques page.
Et ça passe vite.
Craig Thompson, c'est son deuxième vrai livre. Le premier était Blanket, où il racontait un truc autobiographique sur son enfance. Ici, c'est une œuvre de fiction complète. Habibi, c'est, à mon avis, en ce moment, le premier chef-d'œuvre du 21e siècle en BD. C'est un héritage direct avec Will Eisner, avec ce que faisait peut-être Frank King et McKay. Et en BD, normalement, il y a trois éléments et la plupart du temps, c'est le graphisme qui est le scénario à laquelle on fait le plus attention. Mais la narration ici se fond avec ces trois éléments-là pour donner quelque chose de absolument sublime au niveau de l'histoire, avec beaucoup d'émotions. Et le graphisme et la narration qui est... On y traite de religion un peu, c'est-à-dire on met un peu en miroir deux religions, l'islam et tout ça. Donc, à mon avis, en anglais et en français, il est paru en français au mois de novembre. C'est, à mon avis, un des chefs-d'œuvre du 21e siècle.
Alors ça, c'est Habibi. Là, tu me rends coupable de pas l'avoir encore lu. Il va falloir que je rectifie ça en 2012. Et sinon, ben, personnellement, en fait, je dirais, moi, un de mes coups de cœur, voire mon coup de cœur de l'année, Paulina de Bastien Vivès, une bande dessinée qui nous entraîne dans l'univers de la danse et qui nous fait surtout réfléchir et découvrir une relation maître-élève extrêmement bien fait, bien senti, dans la mesure où on a tous eu de ces profs, de ces mentors qui, sans formellement nous apprendre des choses, nous apprenait humainement comment progresser, comment créer, comment être. Et c'est véritablement ce type de relation qu'explore Bastien Vivès. Un dessin noir-gris très peu détaillé aussi, mais vraiment une ambiance de recueillement qui ressort, j'ai envie de dire, de cette bande dessinée. J'en dirai pas plus, sinon qu'il vous faut absolument la lire, du moins à mon sens. Donc ça, c'est Paulina. Michel Giguère, Il était une fois en France, tome 5 cette année, mais la série également qui mérite une mention là.
J'étais en train de me dire, mais quelle diversité, c'est fameux, tout ce qui est sur la table, tu sais, ce que j'ai pas lu, j'ai envie de le lire, et j'ai super hâte de le lire. Il était une fois en France, c'est grand public, le dessin risque de ne pas attirer des lecteurs qui aiment la bande dessinée dite d'auteur. Et pourtant, je vous dirais, lisez-le, c'est pas manichéen, c'est l'histoire d'un juif qui tire son épingle du jeu, et c'est pas noir et blanc, c'est hyper intéressant. Et le dessin peut laisser penser que c'est vraiment classique, le BD d'action, d'aventure. Pas du tout. À lire. Tome 5 qui vient de sortir.
Et en terminant, et on aura réussi à faire nos 23 titres en une heure grâce à ça, Marco Duchesne, deux BD que tu nous proposes aussi, Spirou et Fantasio 52, La Fâche Cassée du Z, et aussi Zombielennium, tome 2, Ressources humaines.
Alors, je ne pouvais pas finir une émission pareille en ne mentionnant pas qu'il y a un nouveau Spirou et Fantasio qui est sorti à la fin de l'année, le 53, La Face Cachée de la Lune. Une nouvelle équipe s'installe au fauteuil pour cette série-là, et ça promet. Et puis, est déjà tout excité à vouloir lire ce numéro, car il m'en parlait récemment que son amour pour Spirou et Fantasio et cette série-là est inconditionnel. Alors, Pierre, oui, il est bon, le dernier Spirou et Fantasio. Alors, tu pourras... Tu veux que je te passe le mien?
Non, je l'ai aussi. Non? Je peux lui prêter, en fait. Je l'ai en main. Là.
Et pour Zombielennium, c'est la découverte, c'est la joie pour tout le monde. Une BD humoristique... d'horreur dessiné magnifiquement par Arthur Depin. Je vous le conseille fortement. Le tome 2 était assez hilarant.
Et voilà, en fait, on aura des débats qui vont se poursuivre, je crois, après cette émission. Peut-être en aurez-vous aussi de votre côté autour de ces sélections qu'on vous a proposées, qui seront mises, je le rappelle, sur le blog de l'émission, également lavieenbd.wordpress.com. Et ben nous, c'est là-dessus qu'on termine l'émission de cette semaine. Bien entendu, on sera de retour la semaine prochaine dès 17h30 pour une autre édition de La Vie en BD. Merci beaucoup à Michel Giguère, responsable donc des rendez-vous de la BD, à Gabriel Leroy.
Merci, Raymond.
Merci beaucoup à Pierre Blais, critique BD à l'émission du matin, CSCKRL, journaliste à Vox. Merci beaucoup à Marco Duchesne, libraire chez Pantoute.
Ça m'a fait plaisir. Tu veux pas mon album, Spirou? Non, Pierre? Non, OK.
Merci beaucoup à Thomas-Louis Côté, directeur général du Festival de la bande dessinée francophone de Québec.
Et merci à Mme Gagné.
Et merci à Sam Murdoch, libraire chez Première Issue. Et je rejoins également Thomas-Louis. Merci beaucoup à Julie Gagné pour la mise en onde. C'était Raymond Poirier avec vous. Et on se dit donc à la semaine prochaine. Et dans quelques instants, c'est la gang de 100% Dynamite qui vous accompagne dans l'univers du groove.